Attention, 30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent à l'athlétisme portugais, plus précisément au marathon. En 1988, la portugaise Rosa Mota remporte le marathon olympique de Séoul. Petit gabarit, vainqueur à plusieurs reprises de la corrida de Sao Paulo, ce petit bout de femme de 1m57 pour 48 kg l'emporte en 2h25 minutes 40 secondes, 13 secondes d'avance sur l'Australienne Lisa Martin. 4 ans auparavant, à Los Angeles, elle avait fini 3e, derrière un autre petit gabarit, l'Américaine John Bunnott, preuve que la morphologie n'a rien à voir avec l'effort exigé. Pour mémoire, le temps de l'Américaine John Bunnott, autre petit bout de femme de 1m57 pour 46 kg, vainqueur du premier marathon olympique, celui donc de 1984, est de 2h24 minutes 52 secondes. Performance qui aurait relégué le grand Émile Zátopek, vainqueur du marathon d'Helsinki en 1952, à 20 secondes. Cruelle évolution ou constat simple, les femmes sont plus résistantes, courageuses et volontaires. Avec Rosa Mota, c'est le couronnement d'une grande, triple championne d'Europe et aussi double championne du monde, vainqueur des marathons internationaux prestigieux comme Chicago et Boston. Elle fait partie des sportifs portugais les plus populaires, au même titre que les footballeurs Eusebio et Cristiano Ronaldo. Rosa Mota est née en 1958. Elle s'est mise à courir pour échapper à son destin de fille de mécanicien d'un quartier populaire de Porto. Elle montrera le chemin, dans les années 1990, à une génération de coureuses portugaises brillantes. Fernanda Ribeiro, vainqueur du 10 000 mètres d'Atlanta 1996, ou la marathonienne Manuela Machado. À la suite de sa carrière athlétique, elle deviendra députée au Parlement portugais. Pays de 11 millions d'habitants, passionné de football, le Portugal entre dans l'histoire de l'athlétisme avec la victoire de Carlos López dans le marathon de Los Angeles 1984 à l'âge de 37 ans. Le petit Portugais, 1m63 pour 53 kg, n'était pas loin s'en faut favori de l'épreuve malgré le boycottage de l'URSS et de ses satellites. Il se retrouve seul au 37e kilomètre et ne sera pas rejoint. Dans la Cité des Anges, Los Angeles, ville mexicaine jusqu'en 1850, à deux pas de Hollywood et de ses paillettes, Carlos López, au tempérament simple et réservé, est consacré. Les favoris, l'Australien Robert De Castella, champion du monde en titre, et l'Américain Alberto Salazar sont lâchés au train. L'Irlandais John Tracy est surprenant second. Déjà en 1976, à Montréal, dans la finale du 10 000 mètres, c'est lui qui fait tout le travail avant que le Finlandais Lars Wirén ne lui souffle la médaille d'or dans le dernier tour. Signalons ici que Lars Wirén, double champion olympique du 5 000 et 10 000 à Munich 1972 et Montréal 1976, abandonnera à chaque fois dans ses deux participations au marathon olympique. À Montréal et à Moscou en 1980, l'Allemand de l'Est Waldemar Sierpinski, ancien boxeur poids léger, un quasi-inconnu ou coureur moyen sur 10 000 mètres, réalisera le doublé. 1984 est donc l'année de Carlos López. Champion du monde de cross-country, il aide son compatriote Fernando Mamede dans l'établissement du record du monde du 10 000 mètres, 27 minutes 13 secondes. En 1985, il devient le premier homme à courir le marathon en moins de 2 heures et 8 minutes. Et dire que le destin a failli empêcher le Portugais de participer aux Jeux de Los Angeles en raison d'un accident de voiture dont il sort heureusement indemne. Rien n'a été facile pour lui. Carlos López est né en 1947 à Viseu, dans le nord du Portugal. Il travaille avec son père comme tailleur de pierre et berger avant d'être découvert pour ses qualités athlétiques et envoyé à Lisbonne. C'est la fin des années 1960 et le début des années 1970. Le Portugal n'est pas encore entré dans l'ère moderne. Le régime dictatorial de Salazar s'effondre en avril 1974, après un coup d'État militaire. La foule manifeste à Lisbonne pour soutenir les jeunes militaires. C'est la révolution des œillets et son symbole, la chanson « Grandola, Villa Morena », qui raconte la fraternité des habitants de Grandola, une ville située dans l'Alentejo, au sud du Portugal. Cette chanson est d'abord censurée, mais le 25 avril 1974, à minuit 15, cette chanson est diffusée à la radio portugaise. Ainsi, tout s'enchaîne. Les prisonniers politiques sont libérés. La censure de la presse est levée. Le secrétaire général du Parti socialiste, Mario Soares, rentre de son exil en France. Il est décédé en début d'année 2017. Un nouveau Portugal qui doit donner l'indépendance à ses anciennes colonies. Angola, Guinée-Bissau, Mozambique, Cap-Vert et Timor-Oriental, rapidement annexé par l'Indonésie voisine. Le Portugal est membre de l'Union européenne depuis 1986 et c'est actuellement un bon élève de l'Europe, malgré les difficultés économiques, à l'image de ses athlètes tenaces, sérieux, endurants. Heureux Portugal. Côté français, on attendait quelqu'un. 28 ans après Mimoun, à Melbourne 1956, 56 ans après Welfi à Anvers 1928, 84 ans après Théo dans le marathon de Paris 1900. Il n'en fut rien. Jackie Boxberger, cinquième de la finale historique du 1500 mètres de Mexico en étant junior, se classe 42e en 2h22 minutes. Boxberger a trop dispersé son talent, c'est dommage. Il sera tué par un éléphant qu'il avait approché de trop près en 2001 dans un parc du Kenya. Focus sur les autres médaillés d'or olympiques portugais. En athlétisme, Nelson Évora, d'origine cap-verdienne, est champion olympique du triple saut à Pékin en 2008. Il annonce Pedro Pichardo, 28 ans, originaire de Cuba, qui a remporté l'or olympique de Tokyo 2020 ainsi que l'or mondial au championnat du monde d'athlétisme de Gine en 2022. La deuxième médaille olympique du Portugal à Tokyo 2020 est en argent et a été remportée par la triple sauteuse Patricia Mamona, une athlète qui a découvert le sport via le Deporto Escolar du Portugal. L'Empire portugais est le premier des empires européens de l'âge moderne. Au cours du XVe siècle, les Portugais inventent la navigation hauturière dans l'océan Atlantique. Après la découverte des Antilles par Colomb, ils négocient avec les Espagnols et déplacent plus à l'ouest la ligne de partage du monde lors du traité de Tordesillas en 1494. C'est ainsi que le littoral oriental de l'Amérique du Sud, découvert en 1500, devient une terre portugaise, baptisée Brésil, du nom du bois de teinture qui fait alors son unique richesse. Quelques décennies plus tard, le sucre y est cultivé de manière intensive grâce à la main-d'œuvre esclave importée d'Afrique, dont le littoral est exploré par les Portugais. Les îles de l'Atlantique, Cap-Vert, São Tomé, constituent autant d'escales. L'autre espace maritime de l'Empire portugais est l'océan Indien, atteint en 1498 par Vasco de Gama. En moins de 20 ans, les Portugais, qui ont l'avantage de posséder des bateaux armés de canons, s'y implantent par la force et la négociation. Ils conquièrent quelques points choisis pour leur emplacement stratégique ou leur richesse. Le Mozambique en Afrique orientale, Goa, Cochin, sur la côte de Malabar en Inde, Hormuz à l'entrée du golfe Persique, Malacca, qui ouvre l'accès aux Moluques, les îles à épices, mais aussi à la Chine atteinte en 1543, où ils obtiennent de l'empereur le droit de s'installer à Macao qu'en 1557, et au Japon, abordé en 1542. Le projet des Portugais n'est pas de coloniser ces espaces, mais de contrôler une partie du riche commerce asiatique. Ce chapelet de possession de l'océan Indien est appelé l'Estado da India, l'État de l'Inde, en 1530. Lisbonne devient une ville cosmopolite où se retrouvent toutes les marchandises du monde. Au milieu du XVIIe siècle, la majorité des possessions en Asie sont perdues au profit des Hollandais. Mais l'Empire se maintient dans l'Amérique du Sud. L'importance du Brésil croît encore à la fin du XVIIe siècle, où l'or est enfin découvert. L'Empire portugais repose sur le métissage et l'esclavage. Le métissage est le résultat d'une évidence démographique. Le faible nombre d'habitants au Portugal fait que peu d'hommes émigrent, encore moins de femmes. En Afrique et au Brésil, les Portugais issus d'unions mixtes sont à la fois des métis, des passeurs culturels et souvent des chasseurs d'esclaves. Les Portugais considèrent l'esclavage comme une pratique légitime, et ce dès le XVe siècle, quand ils arrivent en Afrique. Ils l'ont pratiqué partout, notamment au Brésil, où esclaves indiens et africains coexistent. Au XIXe siècle, alors que d'autres nations européennes se taillent des empires en Afrique, le Portugal cherche à faire reconnaître l'ancienneté de sa présence et revendique une large bande de territoire en Afrique centrale. Il doit se contenter de l'Angola et du Mozambique. C'est seulement en 1930 que les possessions portugaises prennent le nom d'empire colonial portugais. Après le traumatisme des guerres coloniales des années 1960 et 1970, le rapatriement des colons portugais d'Afrique, un certain silence sur le passé colonial prévaut. Au même moment, la dimension européenne devient la voie de l'avenir.
C'était la chronique de Gilles Labourroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.